100% CH avec Richard Labbé.
Richard Labbé qui est maintenant à Tampa Bay, n'est-ce pas? Dans une température peut-être un peu plus accueillante que celle que nous avons présentement sur la rue Laurier. Comment ça va, mon Ricky?
Salut, Greg. Je vais très bien toi-même.
Ça va très bien, merci beaucoup. Tu t'es bien rendu finalement à Tampa Bay?
Oh, écoute, je vais te passer les détails, mais c'est un vol arabais qui m'a donné un service arabais. Alors, je me suis rendu. Mais la bonne nouvelle, c'est que je suis rendu. Je pense que j'ai ouvert la porte de l'hôtel ici vers 3h30 du matin. Mais bon,
non.
Écoute.
Non, t'es pas sérieux.
Il y a des affaires pires que ça dans la vie. Alors, tu vas pas m'entendre me plaindre ici. Mais voilà. Alors, quand on paye pas cher, on n'a pas cher.
Mais pourquoi n'as-tu pas pris la route avec une voiture? La distance n'est pas si longue.
Ça, c'est une excellente question et on s'en reparlera.
Écoute, on va élever ça au rang à date de l'excellente bonne question du jour, si tu veux bien. N'est-ce pas?
Oui.
Bon, écoute, Richard, tant mieux si tout est correct et que ton linge est bien placé présentement dans ton petit garde-robe. T'en vas-tu à Vegas par la suite?
Non. Moi, je vais rentrer à Montréal et je repars pour le Chicago par la suite.
Oh oui, ça sera tout un match là-bas. Ça va être intéressant à suivre. De toute façon, on va s'en reparler certainement. Non, on n'est pas en... Oui, on va être en onde. Oui, on va être là. Tu vas pouvoir nous en jaser, mon cher Richard. Pour l'instant, tu as pu vivre un moment historique, comme on dit au soccer et comme Gilbert Delorme aime si bien qualifier. Cette victoire par blanchissage de Jakub Dobesch qui devient le troisième gardien de l'histoire de la Ligue nationale à faire ça à son premier match contre les champions de la Coupe Stanley. Te rappelles-tu qui était le dernier, Richard? C'est normal si tu t'en souviens pas.
Contre les champions de la Coupe Stanley, écoute, c'est toute une colle que tu m'envoies ce matin avec peu d'heures de sommeil. Alors,
c'est Darren Pupa.
Ah! Avec les Sabres de Buffalo?
Est-ce qu'il était avec les Sabres ou il était... Il a joué avec le Lightning, lui aussi, là.
Ouais, à un moment donné, il s'est promené un petit peu. Ben écoute, c'est drôle parce qu'on a parlé, on a parlé de ça à Dobesch après la rencontre qui, écoute, je pense qu'il y avait d'autres choses dans sa tête que de savoir quelle était sa place dans l'histoire, entre autres dans l'histoire du club, parce que le dernier qui a fait ça, et lui, je m'en souviens, avec le Canadien, c'était Yann Denis qui avait marqué... Ouais. Qui avait marqué l'histoire, si on veut, avec un zéro en commençant dans sa carrière en 2005, je me souviens bien. Et évidemment, je pense que Dobesch avait d'autres préoccupations. Lui, il fallait qu'il arrive ici, il fallait qu'il soit prêt. Je lui ai posé la question parce que je l'ai senti nerveux en début de rencontre. À un moment donné, ça allait vite devant son filet, il a échappé son bâton. Il était pas capable de récupérer son bâton, là je le voyais qui essayait de s'avancer, et il m'a dit, écoute, ça a duré 5 minutes, il y a eu un tourbillon, et j'ai trouvé que ça allait très très vite, et là il y a eu la séquence où il a perdu son bâton, mais il m'a dit, regarde, après ça, ça allait bien, et ce qui était intéressant, c'est qu'il a pas senti, après ces premières minutes-là, il a pas senti que ça allait trop vite pour lui, et... Moi, ce que j'ai beaucoup remarqué de sa part, c'est que, et puis c'était tout un contraste d'ailleurs avec Caden Primo, Greg, qui a eu beaucoup de misère cette année à contrôler les rebonds, contre les Panthers, qui est un club d'échec avant, un club agressif qui fonce au filet, les Panthers avaient rien hier après-midi, il n'y avait pas de rebond, pas de rondelle libre devant le filet parce que Dobesch gobait toutes les rondelles, donc... La grande qualité des Panthers de ramasser, de récupérer les rondelles libres et de créer des chances de marquer, ben là, soudainement, il n'y en avait pas parce qu'il n'y a aucune rondelle qui tombait par terre. Dobesch les captait toutes. Et moi, c'est ça qui m'a impressionné. Puis évidemment, on va mettre les freins. C'est une performance, c'est un match. On va pas s'emporter. Mais ce que ça me dit à la base, c'est que le Canadien a, à tout le moins, un jeune gardien, 23 ans, qui a l'air prêt déjà pour le jeu de la Ligue nationale de hockey.
Ben, il nous l'avait montré en calendrier préparatoire avec des belles performances. On se disait, bon, c'est un calendrier préparatoire, on va pas capoter avec ça. Là, réussi à son premier match, comme tu l'as dit, énorme respect à Yann Denis. Mais est-ce que... Non, mais c'est vrai, là. Ça reste que ce n'est pas un gardien qui a marqué l'histoire à long terme du Canadien. Donc, comme tu l'as dit, on va prendre notre gaz égal. On a le droit d'être content et de célébrer. Et là, on se retrousse les manches. On arrive gonflé de confiance à Tampa Bay pour le match de cet après-midi. T'avais raison, c'est avec les Sabres de Buffalo d'Aaron Pupa qu'il a accompli ça, et c'était probablement la dernière bonne nouvelle à Buffalo, n'est-ce pas?
Oui, probablement, ça doit faire au moins 25 ans de tout ça.
C'était en 1985.
Ah, ok, encore plus loin.
Voilà. C'est. Je fais des blagues et écoute ça aussi. Là aussi, tu sais, hier là, c'était le grand déblocage dans la Ligue nationale de hockey. Rappelez-vous, là, dans le temps, un super écran, il y avait le grand déblocage là, dans le temps des fêtes. Là, on pouvait regarder des films. On avait accès à tout le câble, à tout le reste. Là. Hier, ça a été le grand déblocage chez le Canadien de Montréal, mais aussi avec les Islanders de New York. Ça a été le cas pour Quinton Byfield. Ovechkin est revenu. Il a compté lui aussi. Ça a été des bonnes nouvelles partout. Mais je pense que le grand gagnant de cette journée-là, c'est fort probablement Kirby Dach.
Ouais. 100%. Puis écoute, je sais pas si la caméra a capté la face de Kirby Dach quand il est rentré au banc après ce premier but-là. Un but un petit peu, peut-être un petit peu chanceux avec le patin, la rondelle qui se retrouve dans le fond du filet. Mais là, regarde, rendu là, c'est pas la manière, c'est le résultat. Et t'aurais dû lui voir la face quand il est rentré au banc. Écoute, tu sentais vraiment... des tonnes de pression qui étaient qui venaient de disparaître soudainement, et quoi, là, à peu près 10 minutes plus tard, il réussit son deuxième. Puis c'est intéressant parce que Martin Saint-Louis, je lui pose la question après la rencontre, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait le relancer, et j'ai aimé la réponse de Martin Saint-Louis. C'est intéressant ce qu'il dit, c'est que il dit récemment il recommence à être lui-même. Et là, ben ça, ce que ça veut dire, c'est qu'évidemment, il y a un peu plus de confiance dans son jeu. Mais là, en plus, s'il y a des résultats qui suivent, parce que, tu sais, Greg, c'est une chose de dire, ouais, il joue mieux, mais un joueur comme lui, juste jouer mieux, c'est pas assez. C'est que tu as besoin de preuves qu'il joue mieux. Puis les preuves, c'est quoi? Ben, c'est les buts, puis c'est les passes. Ben là, hier, tu as vu la preuve, il a doublé son total de buts en une journée. Hein, c'est pas compliqué, il en avait deux, il est rendu avec quatre. Mais si c'est susceptible de le relancer, pour moi, c'est la meilleure nouvelle possible pour le Canadien de Montréal au moment de finir la présente année. C'est que tu as absolument besoin de ce joueur-là. On en a déjà parlé, Greg, puis je vais jamais démentir. Là. C'est lui, Slafkovský, probablement, c'est pas loin derrière, là, mais tu as besoin de ces deux gars-là.
Non. Et tu sais, Jake Evans, on l'aime encore compté hier, mais Jake Evans, on peut pas dire que c'est le deuxième meilleur centre du Canadien. Là. C'est dans aucun monde, on peut baser une reconstruction là-dessus. Là.
Il peut pas être ton deuxième centre. Il faut qu'il soit ton troisième centre. Et Jake Evans, regarde, on vient de parler de joueurs qui retrouvent de leur superbe et qui doublent des productions. Ben, Jake Evans, présentement, son total de buts, c'est son total de buts des deux saisons précédentes. T'sais. Fait que là, lui, il est en train de se monnayer quelque chose de pas pire. Évidemment, il n'y a pas de contrat à la fin de la saison. Présentement, les discussions sont pas mal au point mort. On en parlait la semaine passée. Mais après la rencontre, Jake Evans, même chose. T'sais, lui aussi parlait de confiance puis de faire des pas en avant. Je sais que Jake Evans ne pourra pas être ce joueur-là. Il ne peut pas être ton deuxième joueur de centre, effectivement. Mais par contre, c'est la preuve. Hier, on l'a vu encore à quel point ce gars-là est important à 4 contre 5, à 5 contre 5 aussi. Mais hier, son but à 4 contre 5, un peu de chance, hein, la rondelle, je pense qu'il a collé sur le dos, collé sa palette. c'est comme une rondelle qui ne voulait pas le quitter. Mais c'est correct.
Il crée sa propre chance en étant aussi dominant qu'il l'est en désavantage numérique. C'est vraiment intéressant de le voir, de voir son jeu de cette façon-là. T'sais, présentement, il joue d'une façon inspirée, mais tu sais, je vois ça comme étant, je veux pas être rabat-joie ce matin, c'est loin de moi cette idée-là, mais je trouve ça dangereux, le salaire que peut commander Jake Evans. Est-ce que, tu sais, tu l'as dit, cette année, il y a déjà le nombre de buts qu'il avait durant ses deux dernières saisons. Donc, cette année est la saison exceptionnelle dans la carrière de Jake Evans. Est-ce que c'est lui qui continue de progresser et finalement est dans la bonne chaise, dans le bon environnement, avec le bon coach. Donc, tout a cliqué et c'est ce qu'on va voir, comme on disait, à partir de désormais pour Jake Evans, ou encore une fois, il est en train de se commander un gros contrat et là, on l'aime. On lui donne, admettons, là, selon, genre, je me fie sur ce que les chiffres que j'ai vus sur nos messageries textes, notre YouTube Live depuis le début de l'émission. Mettons que ça tourne autour de 4 millions, là, peut-être un peu plus. Là, parce qu'il y a des gens qui sont prêts à lui donner, puis écoute, je suis pas là pour juger du chiffre présentement. S'il retourne à 9 buts, là, est-ce qu'on va être content de cette production-là? Je ne crois pas.
Ouais. Ben écoute, c'est ce qu'on appelle. En français, un attrape 22, n'est-ce pas? C'est-à-dire que... c'est-à-dire que... si tu lui donnes, probablement que tu lui donnes trop. Probablement que tu lui donnes trop d'années. Probablement que tu lui donnes trop d'argent. Mais si tu lui donnes pas et qu'il s'en va ailleurs, ben là, t'as un trou dans ta formation que tu vas avoir beaucoup de mal à combler. Puis là, sortez-moi pas Owen Beck, ça arrivera pas. Owen Beck, pour moi, est un joueur de centre, probablement de quatrième trio, mais je ne vois pas en Owen Beck les qualités que l'on voit présentement en Jake Evans. Alors, ça va être... C'est un peu... Et puis, tu sais, il me rappelle un peu, Greg, je pense que tu l'aimes beaucoup, Phil Dano, qui joue avec tes Kings de Los Angeles.
Oui.
Souviens-toi, quand le Canadien a trouvé que Phil Dano coûtait trop cher, on a laissé aller Phil Dano. Et là, on pensait que...
Quelle erreur!
...allait être ce gars-là. Et Dvorak a jamais été capable de combler ce vide-là.
Effectivement. Alors,
c'est un problème, Greg. C'est un problème.
Ben écoute, c'est un beau problème qu'on a présentement avec Jake Evans. Je persiste à croire qu'il va rester avec l'organisation, qu'il va signer un contrat qui va être équitable pour lui. Kent Hughes est un excellent négociateur. Là. Rappelons les contrats qu'il a donnés. Ne surpaie jamais. Trouve une façon de convaincre les joueurs qu'il signe les bons contrats pour faire partie de cette équipe-là pour longtemps. Donc, je veux dire, je reste très en confiance qu'il va rester dans l'organisation puis qu'on va payer un bon prix également, qu'on ne surpaiera pas pour Jake Evans. C'est comme tu dis, s'il peut rester dans cette reconstruction-là, finalement, c'est lui qui pilote le quatrième trio. T'sais, et que tout tombe en place. Là. Je veux pas commencer à faire du... je dis encore, rêver, c'est gratis. Là. Ouais. Et je suis pas en train de dire que tout va tomber en place et que ça va tomber exactement comme on le pense. Mais si on finit par avoir Suzuki, Dak, Age, Evans comme ligne de centre, je pense qu'on sera pas si pire que ça. Si Dak, bien sûr, vient de se réveiller.
Et il y a un aspect, Greg, là-dedans qui est pas quantifiable. C'est pas sur ta feuille de match. C'est pas dans les statistiques. Et c'est dur à quantifier, mais c'est une réalité. C'est, nous autres, on rentre dans le vestiaire. Hier, par exemple, c'était un bon exemple. Canadien de Montréal est sur la route. Là, c'est une victoire inespérée. Le party est pogné dans le vestiaire. T'sais, nous autres, on attend les joueurs dans le corridor, puis la porte est ouverte, fait qu'on entend la musique dans le fond du tapis. Puis tu sais, souvent, on rentre, puis dans le vestiaire, t'as pas mal les gars qui sont toujours là. Tu sais, t'as Suzuki qu'on voit, t'as Jake Evans qu'on voit. T'as Caulfield qu'on voit. Tu vois beaucoup, pas mal, les mêmes gars. Puis de la façon que ça fonctionne souvent dans les vestiaires de la Ligue nationale de hockey, c'est souvent un petit peu ton groupe de leadership qui attend dans le vestiaire au moment où c'est la période des questions qui commence. Et puis, tu sais, encore une fois, c'est pas quantifiable. Tu peux pas mettre un chiffre là-dessus. Mais pour moi, c'est assez important quand nous, on arrive dans le vestiaire. On voit qui est là parce qu'on rapidement tu identifies ton groupe de leadership. Au fil des années, il y a plein de joueurs chez le Canadien de Montréal que quand c'était le temps de répondre aux questions, mauvaise performance ou bonne performance, ces gars-là disparaissaient, puis ça leur tentait pas trop de se mêler aux autres, puis ils voulaient pas trop être vus. Puis ça te dit, moi, en tout cas, ça m'en dit un peu souvent sur la personnalité des joueurs et sur l'importance des joueurs au sein d'un club. Ben là, Evans, pour moi, c'est un gars que je sens très, très important avec le Canadien de Montréal. C'est un gars qui fait partie intégrante de l'équipe, qui fait partie du groupe de leadership de l'équipe. Alors, c'est sûr que si tu le retires de l'équation, tu sais, c'est pas que c'est un joueur que tu peux pas remplacer, mais sais, à un moment donné, tu peux pas perdre tout le monde puis penser que tu vas avancer. Tu sais, OK, on va échanger Matheson. OK, on va échanger David Savard. OK, on va échanger Jake Evans. Tu sais, à un moment donné, tu peux. Tu sais, il faut que tu gardes un noyau parce que éventuellement, tu as besoin de construire une identité. Et là, si tu échanges 3-4 gars comme ça, puis là, après ça, tu recommences avec des nouveaux, tu n'as aucune idée
Non, c'est ça. Alors, tu ne
de
peux pas être en
l'expérience.
reconstruction perpétuelle non plus. Et quand tu as des joueurs que tu sais ce
Non.
qu'ils peuvent te donner,
Non.
tu dois te faire un effort pour les garder. Richard, merci de ton apport encore une fois à cette émission. Bon match tantôt.
Allez bien, bye bye.
Prends bien soin de toi.